Là, c'est la fête des tabernacles, donc une belle photo qui représente la fête des tabernacles, et dont je voudrais vous parler un peu aujourd'hui. Mais juste avant, j'aimerais vous parler du pasteur d'une assemblée messianique en Israël qui s'appelle Tony Sperandeo, que j'ai rencontré avec quelques-uns ici il y a quelques mois en arrière. Et début octobre, j'ai dit à Julie que j'avais à cœur de le contacter pour voir comment on peut soutenir concrètement aussi Israël. Et il m'a répondu et m'a dit que dès cet octobre, ils ont apporté un soutien à la fois spirituel et émotionnel aux familles des otages et ainsi de suite. Et ils font vraiment un travail remarquable là-bas. Mais je vous dis ça parce que je pense que la nuit même où j'ai dit cela à Julie, et c'était le mercredi 2 octobre, c'était le début de la fête de Rosh Hashanah, et j'ai fait un rêve, et ça fait depuis des années que Dieu me parle par des rêves, et donc je les prends vraiment au sérieux. Et dans ce rêve, je me suis retrouvé dans un amphithéâtre universitaire, et là, moi j'étais parmi les auditeurs, et en face de nous, on avait comme enseignant, un enseignant ici agrégé de maths, de l'établissement Daniel, qui enseignait en hébreu. Et ensuite, chose étrange, c'est qu'à un moment donné, il y avait des juifs qui étaient là, donc avec leur tenue, je pense que c'était des juifs messianiques, des jeunes, et ils sont venus vers moi, et ils m'ont proposé un repas. Ils avaient un véritable repas qu'ils me proposaient. Et ça m'a vraiment touché, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. En tout cas, après avoir eu ce rêve, j'ai tout de suite pensé au passage biblique suivant, qui se trouve dans Romains 15, où il est dit « Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem, et c'est la suite que je voulais souligner. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles, c'est-à-dire matérielles. » Donc moi j'avais à cœur de soutenir concrètement, matériellement, Israël. Et là c'est, quelque part, à travers ce juste, Israël qui m'apporte quelque chose, qui me donnait quelque chose. Et ça m'a fait réfléchir. Et juste une grande parenthèse, si vous avez à cœur de soutenir Israël concrètement, financièrement, venez me voir. On a, en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai deux pistes. Il y a l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem aussi, qui est un site internet, et là, on peut faire des dons en passant par ce site. Ou bien aussi, il y a l'assemblée de Tony Sperandeo, qui est un site internet aussi, et là aussi, on peut faire des dons. Donc pour en revenir à cette idée de repas, c'est que premièrement, qui dit repas dit communion fraternelle. Ce jeune, il me proposait un repas, et ça me parle de communion fraternelle aussi avec nos frères aînés, comme tu le dis, juifs. Et le 7 octobre, avec Luc et Manuela, on est allé à la grande synagogue de Mulhouse pour la commémoration donc de ce triste événement du 7 octobre 2023. Et là, il y a eu comme une forme, oui, de communion, d'échange avec les responsables et les personnes juives qui étaient là. Moi, c'était la première fois que je suis allé là-bas. Et ce qui m'a vraiment touché, je ne m'attendais pas à ça, c'est une grande ouverture des responsables. Et combien de fois ils ont souligné dans leur discours, ils ont cité qu'ils étaient touchés par le soutien des chrétiens. Ça m'a vraiment touché. À un moment donné, il y avait même un ancien parent d'élève que j'ai rencontré, et il avait là son pull, vous savez, le symbole messianique, la menorah, la croix de David, et ensuite le poisson ictus qui représente donc Jésus-Christ. Et je dis, waouh, c'est bien là, vous êtes dans l'évangélisation. Il a dit, ah oui, moi je me gêne pas. Et il m'a raconté la chose suivante, il m'a dit, mais vous savez, moi un jour, je me suis retrouvé dans une grande salle, et il y avait l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur d'Israël, donc en France. Et là, il y a mon épouse qui me dit, écoute, Henri, tu y vas mollo, hein, tu restes discret, hein, parce que voilà, elle voulait un peu calmer son ardeur. Et lui, bah, bien sûr, il va voir cet ambassadeur, et il lui témoigne de sa foi. Et l'ambassadeur, ce qu'il fait, il s'adresse à toute la salle. Oh, regardez, il y a un chrétien qui nous soutient. Donc je dis ça parce que bon, pour la femme, le côté discret, voilà, c'était raté. Mais pour dire, waouh, cette ouverture, ça m'a vraiment touché. Donc voilà, cette communion fraternelle, cette solidarité. Mais en même temps, la nourriture, bien sûr, c'est la nourriture spirituelle. la nourriture spirituelle qu'on leur doit, quoi, quelque part. Ce sont eux qui l'ont reçue, la Torah, et qui nous la transmettent. Et je crois qu'il est important de revenir à cette nourriture saine, purgée de tous les additifs qui ont été rajoutés. Et c'est ça le problème. Et j'aurais envie de dire les additifs constantiniens qui ont été rajoutés et qui ont un peu pollué cette nourriture. Donc moi je crois qu'il est important de revenir à cette nourriture saine, c'est-à-dire à revenir aux racines de la foi, aux racines hébraïques de la foi, et évidemment en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et après vous dites, ah ouais, mais dans cette église on parle quand même beaucoup d'Israël, Huguette a parlé d'Israël dimanche dernier aussi, on a parlé d'Israël, et mais moi je crois que l'église Josué est une église prophétique, et qui, après comme d'autres, je dis sans aucun orgueil, on va parler de l'orgueil après, sans aucun orgueil, parce qu'il y a un côté précurseur ça fait partie de l'ADN de l'église Josué, déjà au niveau de l'éducation chrétienne. Regardez quand ça a commencé, il y a d'autres églises qui disaient non, et là, peu à peu, on voit des églises, des grandes églises, qui adhèrent maintenant à l'éducation chrétienne. Moi, j'ai envie de dire que pour Israël, c'est un peu pareil, c'est qu'il y a un côté un peu précurseur, et regardez le ministère prophétique Henning Shikora, qui est venu il y a quelques mois en arrière, qui ne connaît pas l'église, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, vous avez une connexion spéciale avec le Dieu d'Israël. Donc, je crois vraiment que c'est quelque chose, un axe important. Ce n'est pas l'axe, bien sûr, ce n'est pas la ligne directrice unique de l'église Josué, mais c'en est une composante importante. Et je voudrais aussi juste vous prouver pourquoi, quelque part, on est précurseur, et pourquoi aussi l'Église des Nations va peu à peu retourner vers le Dieu d'Israël. Pourquoi ? Parce que c'est annoncé tout simplement par la parole. C'est pas moi qui le dit. Regardez, c'est dit à la fois dans Ésaïe et dans Michée. Là, je choisis de vous lire Michée parce que le texte est pratiquement identique. Michée 4, où il est dit, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. » La suite, elle est aussi intéressante. Et quelque part, elle nous donne de l'espérance par rapport au contexte actuel. « Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes et lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Amen. Amen. Mais c'est quand même intéressant de voir que avant il y aura un mouvement de paix, de réconciliation entre les nations, mais avant cela, il y aura un retour vers le Dieu de Jacob. Et moi je rêve d'un voyage d'église en Israël. Pour l'instant, c'est pas trop possible, mais on a des précurseurs, des ambassadeurs. On aura Rachel qui va partir, et avec Véronique et Olivier bientôt, et on priera pour vous avant votre départ. Mais c'est excellent que vous partiez en tant qu'ambassadeur de l'église Josué. Et donc, voilà, j'en viens à mon propos d'aujourd'hui, la fête des tabernacles, qu'on appelle aussi la fête des huttes, la fête des cabane. Et après vous pouvez dire, ah oui, mais est-ce que ça nous concerne vraiment? Il faut vous dire une chose, là, premièrement, c'est un rendez-vous divin. Un rendez-vous divin, c'est une convocation divine, et où Dieu se révèle, Dieu parle, donc c'est quand même précieux d'être à l'écoute, de voir ce qui se passe. Et deuxièmement, la Bible, elle nous dit aussi que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner. Donc, y compris cette fête des tabernacles. Donc, la question, c'est qu'est-ce que nous, on peut en retirer aussi pour notre vie de disciples? Et un autre point, par rapport aux nations dont j'ai parlé, c'est que cette fête des tabernacles en particulier, elle revêt une dimension particulière pour les nations en vue aussi de l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans Zacharie 14, 16, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem, et en ce moment on sent cette tension, même au niveau de l'ONU contre Israël. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, donc à Jérusalem, l'Éternel des armées, et pour célébrer quoi ? La fête des tabernacles. Donc quelque part, ça nous concerne. Donc cette fête, elle a commencé le 16 octobre, elle se poursuit jusqu'au 23 octobre. Donc, de quoi s'agit-il ? Là, je vais lire la parole, Lévitique 23, 40. Vous prendrez le premier jour du fruit de l'arbre Adar, des branches de palmier, des rameaux, de l'arbre Avot et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez en présence de l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous la célébrerez cette fête pour l'Éternel. 7 jours chaque année, c'est une règle immuable pour vos générations. Au 7e mois, vous la fêterez. Vous demeurez dans des soukottes, ou soukas, donc ces cabanes, là, on en voit une. Durant 7 jours, tout citoyen d'Israël demeurera dans des soukottes, afin que vos générations sachent que c'est dans des soukottes que j'ai fait résider les enfants d'Israël, quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte, moi l'Éternel, votre Dieu. C'est la fête, par excellence, de l'année en Israël, et on voit bien sûr le côté, la dimension pédagogique. N'oublions pas que le plus grand pédagogue, c'est Dieu. Et donc, en plus, cette fête, elle revêt quand même une dimension particulière pour Israël. Donc, imaginez des familles donc, qui ont ces petites cabanes à l'extérieur de chez eux. D'ailleurs, à la grande synagogue de Mulhouse, ils étaient en train de la faire quand on y était. Et rien que déjà pour les enfants. Parce que là, il y a une dimension de mémoire. Vous allez le fêter afin que vos générations sachent, les générations suivantes. Et quand on voit juste comment les enfants aiment faire des cabanes déjà dans les maisons, donc imaginez-vous la joie des enfants quand on leur dit, voilà, on va passer une semaine comme ça, on va passer du temps ensemble dans des cabanes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer, nous ? Il y avait sûr un tas de choses, mais un premier point, je pense, qu'on peut retenir de ça. Imaginez-vous avec vos enfants, votre famille, pendant une semaine comme ça, à l'extérieur, dans votre jardin, dans une souka. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon spirituelle ? Donc moi, je vous propose déjà un axe, c'est retrouver la simplicité. Donc la simplicité de la vie nomade, parce que voilà, ils se souviennent du séjour de leurs ancêtres dans le désert. Donc je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais moi je trouve que parfois le monde il est tellement complexe, tout est tellement compliqué. Et là, et quelque part on peut être pollué par ça. Et là, simplement c'est un retour juste à la simplicité des choses, parce que parfois on se prend de la tête, parfois pour des choses tellement compliquées. Ésaïe nous dit par exemple le pays rempli d'idoles. Michée nous dit que les peuples marchent chacun au nom de leur Dieu. Moi, je suis désolé, mais j'ai quand même l'impression qu'en France, bien sûr, il y a comme du rationalisme et de la philosophie et aussi de la confusion. Et parfois, je trouve que les choses sont tellement compliquées et on peut être pollué par tout ça. Et au niveau spirituel aussi, je trouve qu'on peut être parfois pollué. Moi, je suis un peu mal à l'aise quand je vois parfois des ouvrages qui disent voilà comment arriver à la paix en 15 recettes ou en 15 clés pour faire ci ou ça. Parfois, j'ai envie de dire que c'est quand même beaucoup plus simple que cela. Il nous est dit dans 2 Corinthiens 11, 3, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. De quoi ? De la simplicité à l'égard de Christ. La simplicité. Parfois, on complique les choses. Deuxième leçon spirituelle, en tout cas que moi je tire de cette fête des tabernacles, c'est l'humilité par rapport à la vie. Parce qu'ils sont là, quelque part dans des... parfois il fait froid, et on se souvient aussi qu'on est quelque part que des hommes. Et c'est une humilité par rapport à la vie en tant que telle, parce que on peut vite tomber dans ce qu'on appelle, la Bible appelle, l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, on se sent maître de tout. Christ nous a donné l'autorité, effectivement une autorité, il ne faut pas se sentir pour des sauterelles, non. Mais il nous a donné une autorité, mais n'oublions pas que c'est lui le maître de notre vie. Nous, nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Et regardez, Jacques le dit très bien dans le chapitre 4, il est dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou dimanche ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, ainsi de suite. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Donc voilà, l'orgueil de la vie, c'est parfois rester humble aussi. Et autre leçon spirituelle qu'on peut tirer de la fête des tabernacles, qui rime aussi en T, c'est la vanité. Et d'ailleurs, le livre que lisent les Juifs durant la fête des tabernacles, et d'ailleurs Julie a pris un extrait dimanche dernier, c'est l'Ecclésiaste, où il est question de cette vanité. Donc la vanité, c'est quoi? C'est ce qui est un peu vide de sens, qui est futile, un peu inutile. Et parfois, un peu comme Mathé l'a dit, il y a parfois des choses, des soucis, des choses qui nous rongent, mais parfois, quelque part, pour rien. Parfois on se prend la tête, et je le dis pour moi-même, on se prend la tête pour pas grand-chose. Vous savez, il y a des statistiques qui ont révélé que, et ça c'est pas étonnant, que 9 Français sur 10 souffrent du stress. Et les spécialistes ont essayé de déterminer les causes du stress, et ils ont résumé la résultat de leur recherche en utilisant l'acrostiche CINE, C-I-N-E accent aigu. Et donc la première cause de stress, une des causes du stress, c'est pas forcément un ordre, c'est le C, c'est contrôle faible. C'est quand tu as l'impression de ne plus contrôler ta vie. Le I, c'est l'imprévisibilité. Quand il y a des choses imprévisibles, c'est source de stress. Et le N, nouveauté. Nouveauté, quand il y a des choses nouvelles, parfois certains, on aime la routine, et après, il y a des nouveautés qui s'accumulent, et voilà, ça fait mal. Et je pense que, à notre niveau, au niveau professionnel, et certains, je pense, peut-être le vivent actuellement, quand on est sans arrêt exposé à la nouveauté, à l'imprévisibilité, c'est clair que je peux comprendre qu'on soit stressé. Mais je voudrais juste faire une petite parenthèse, c'est quand même intéressant, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, au niveau spirituel, on sait que l'homme charnel, il fuit la souffrance et il aspire au plaisir. Mais on se rend compte, je parlais de Constantin aussi avant, que l'Église, à un moment donné, c'est quand même intéressant, ils ont combattu, l'Église a combattu ces trois points, on va dire, ou quelque part, c'est comme si l'Église voulait éviter d'être exposé au stress. Pourquoi? Parce que vous prenez l'Église primitive, qu'est-ce qu'il y avait? Les gens se retrouvaient dans les maisons, on louait le Seigneur, on adorait le Seigneur, ensuite d'un coup, oh, parole de guérison, parole de connaissance, ça fusait dans tous les sens. C'est l'Esprit qui agissait. Et on ne savait pas où on allait s'orienter. Et là, mais donc c'était tout le temps de l'invisible et de l'imprévisible, de la nouveauté sans arrêt, mais c'était dans la culture. Mais sauf que ça n'a pas plu, et à un moment donné, non, on a verrouillé ça. Ah non, il faut contrôler les choses, ça c'est purement humain. Donc on a mis en place de bons rites pour ne pas être, pour être à l'abri de tout ce qui est imprévisible, de tout ce qui peut être déconcertant. Et donc tout ce qui est nouveau, tout ce qui est imprévisible, non. On a ôté ça, et on voit à quel point c'est encore ancré aussi dans l'Église catholique romaine. Donc, tout ça c'est facile à dire, mais quand on est exposé à ces situations-là, sur le lieu de travail, tout ça c'est bien sûr plus difficile à combattre. Mais moi en tout cas, avec Julie en famille, on a vécu quand même durant cette première période pas mal de turbulences. Et je lui ai dit encore moins ce que j'apprends actuellement, mais de manière très forte, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Tu lâches prise. Tu arrêtes de t'accrocher à des choses comme ça. Tu lâches prise. Et c'est le Seigneur qui nous dit. Il nous dit, regardez ce que Jésus nous dit. Il nous dit ça dans Luc 12. Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose. Là aussi, ça nous rend humbles. D'accord ? Si vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Donc ça, c'est vraiment, moi, un objectif que je veux me fixer, c'est le lâcher prise. Et c'est très très bon. Regardez ce que nous dit Esaïe aussi. C'est dans le calme et la confiance que sera votre salut, mais vous ne l'avez pas voulu. Parfois je me dis, c'est aussi un peu de l'ordre de ta volonté là. Enfin pourquoi? Non, reste dans le calme et la confiance. Tu dois le vouloir quelque part. Et il manque, là ça vous a pas échappé, on a vu C-I-N, il manque le E accent aigu, le E. Et ça c'est très intéressant aussi par rapport à l'histoire de l'Église. Donc dernière cause du stress, c'est quand notre ego est menacé. E-ego. Contre notre ego est menacé, entre parenthèses, dans l'histoire de l'Église aussi, ben, quelque part on a verrouillé parce qu'on pouvait bien contrôler, et aussi l'ego n'était pas menacé, les personnes ne nous remettaient pas en question, ils ne remettaient pas le prêtre en question. Tout était bien ordonné. Et d'ailleurs, le terme vanité veut aussi dire orgueil. Et donc c'est vrai que l'être humain, mais ça vous est peut-être arrivé aussi, il oscille en ce qu'on, il y a une oscillation entre ce qu'on appelle l'hyper-ego. Eh mais, je suis bon moi. Et l'hypo-ego. Seigneur, tu vois comme je suis nul. On vacille entre les deux. Et ça aussi, c'est du vent quoi, quelque part. C'est de l'instabilité ensuite qui nous coûte après. Et c'est Bonke, l'évangéliste Reinhard Bonke qui a dit, je trouve ça intéressant, quand tu es à genoux, la louange des hommes et la critique des hommes te passe au-dessus de la tête. C'est-à-dire que voilà, quand tu es enraciné en Dieu dans ton identité, à la fois la faveur des hommes, leur louange, quelque part bien sûr tu peux l'accueillir, il ne s'agit pas de fausse modestie, tu peux être content mais tu rends gloire à Dieu, et quand on te critique, quelque part parfois le reproche il peut être juste, il peut être juste, légitime, mais dans ce cas-là tu en retires une leçon, mais ton cœur ne doit pas être atteint par cela. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation. C'est toujours cette vaine, la vanité, c'est une vaine recherche de la faveur des hommes qui est propre à l'homme charnel, mais qui ne devrait pas être propre à l'homme spirituel. Donc c'est un combat. Il y a des statistiques sur l'amitié qui ont été effectuées dans le monde. Et regardez, écoutez plutôt. Les chercheurs ont constaté que 25% des gens que vous allez rencontrer ne vous aimeront pas. Vous aimeront pas. 25%, ils ne vous aimeront pas forcément, mais pourraient être persuadés du contraire. Okay. Les 25 autres personnes vous aimeront, mais pourraient être persuadés un jour de ne plus vous aimer. Et il reste 25% qui vous aimeront, peu importe votre situation. Donc voilà, alors la faveur des hommes, vous voyez, donc être exposé à la vogue des faveurs des hommes, une fois oui, une fois non, là c'est comme le jeu des fleurs, là, des pétales, une fois oui, une fois non. Et c'est un acteur célèbre qui a dit, qui a connu le succès mais qui a connu aussi l'échec, il a dit cette phrase intéressante, il a dit « Je ne connais pas la clé du succès, mais la clé de l'échec, je la connais, c'est essayer de plaire à tout le monde. » Intéressant. Et c'est ce que Chris Abington il nous a dit, se libérer un peu du regard des autres, qui regardent ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Ça, c'est important. Et c'est Nicky Gumbel qui disait la chose suivante. Il disait que l'amour, ça en termes statistiques, l'amour, c'est 10% d'émotion, il nous dit. C'est 20% de compréhension et 70% de volonté. Donc il dit, en somme, pour nous chrétiens, l'amour ne doit pas être quelque part une victime de nos émotions, mais l'amour doit être au service de notre volonté. Ça, j'aime. Mais c'est vrai que Dieu nous dit ce commandement. Aime ton prochain comme toi-même. C'est un commandement. Et c'est pas en fonction de tes émotions, si tes émotions le disent, tu aimes. Tu aimes. Je parlais d'accueil avant. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de Jésus? Ah oui, cet homme, il accueille. Ah, il accueille quoi? Qui? Des gens de mauvaise vie. Mais il accueille. Il accueille. Quelles que soient les personnes. Donc notre regard sur nous-mêmes, il ne doit pas osciller, il doit être stable. Et d'ailleurs, selon Bernanos, l'écrivain Bernanos, il dit la fête des tabernacles, elle est là pour nous faire désespérer des choses vaines, mais pour nous aider à espérer dans les choses stables. Ça, c'est intéressant. Et ton identité en Christ est une chose stable que tu ne dois pas te laisser ravir. Et d'ailleurs, désespérer des choses futiles, ça c'est une clé aussi, et qui nous épargnera beaucoup de stress. Et là, il y a une belle citation, je trouve, que j'ai trouvée, que j'aime beaucoup. C'est pas dans la Bible, elle reste intéressante quand même. La sagesse, c'est savoir ignorer ce qui n'en vaut pas la peine. Ou bien on peut le dire d'une autre manière, la sagesse, c'est l'art de savoir quoi ignorer. L'art de savoir ce que tu dois ignorer dans ta vie. Donc, durant cette fête des tabernacles, oui, on doit désespérer des choses futiles et on se dirige vers la stabilité. C'est pour ça que cette fête, c'est pas une fête triste, hein, où on se dit « Ah, mais oui, d'accord, la précarité de l'être humain et tout ça ». Non, pour les Juifs, c'est une grande fête de joie parce qu'on se dirige vers quelque chose de solide. On se dirige vers la Nouvelle Jérusalem, vers le royaume de Dieu au solide fondement. Regardez ce qui est dit dans Hébreu au sujet d'Abraham. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, parce qu'on est des voyageurs aussi. Ça c'est quelque chose aussi, on est des voyageurs sur terre. C'est quelque chose aussi que les Juifs peuvent réaliser quand ils sont dans ces cabanes. On est simplement de passage sur terre. Donc c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements. Et donc, nous, bien sûr, on est dans un monde d'instabilité. Mais comme on connaît notre destination, eh bien, on peut être des instruments de stabilité pour les personnes autour de nous. Et c'est ça qui est bon aussi. J'ai pas retrouvé la citation, c'est un peu dommage, elle a été effacée, mais comme vous le savez, donc le serviteur de Dieu Carlos Payan est décédé, hein, rapidement, brutalement. Et il y a quelqu'un qui a posté une des citations de son livre sur la guérison divine, et il disait en substance, mais je n'ai plus retrouvé la citation, elle avait été supprimée, mais il disait en substance, je ne suis pas empressé de mourir, ce qu'il écrivait dans son livre, mais il dit, mais je me réjouis d'être auprès de mon Seigneur. Donc quelque part, il y a aussi un peu de ça. C'est quelque part, on se réjouit aussi parce que ce royaume stable, quelque part, c'est notre destinée, mais en même temps, il nous accompagne dans notre quotidien. On est au cœur d'une alliance bien réglée et sécurisée. Et cette stabilité-là, elle doit nous accompagner. Et pour qu'on soit aussi contagieux. Et pour les Juifs aussi, c'est une fête qui est joyeuse parce qu'ils savent qu'on se dirige vers ce qu'on appelle le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation de toutes choses. On a cette espérance qu'un jour le monde sera réparé. Vous vous rendez compte si on ne l'avait pas, cette espérance? Moi je dis ça aux élèves, mais vous vous rendez compte? Si le péché, la maladie, la souffrance étaient éternelles. Oh. Et ils ont cette espérance-là, et quelque part ça leur donne des forces. Mais ce qui est bon, c'est que quelque part, il ne faut pas simplement être assis sur notre chaise, mais oui, on attend le tikkun olam, c'est que nous, en tant que précurseurs, ambassadeurs du royaume, on est déjà appelés à être des réparateurs de brèches, comme on l'a dit dimanche dernier, et à voilà, combler déjà des brèches, et là, on parlait du cri dimanche dernier, et ce cri, on l'a chacun d'entre nous, on peut appeler ça aussi les bonnes œuvres préparées d'avance. On l'a chacun d'entre nous, il y a un manque, une brèche dans le monde, quelque chose d'instable, et nous, on est appelés à y répondre. Et c'est ça le cri de notre cœur, et faisons attention à ce cœur, à ce cri, répondons à ce cri par la prière par des actes concrets aussi. Et donc à Sukkot aussi, non seulement ils devaient construire ces cabanes, mais ils étaient aussi appelés à prendre des différentes espèces de végétaux. Et donc il y avait donc le saule, il y avait le myrte qui représente à la fois la vie éternelle, donc ce côté stable quelque part qui nous attend, mais aussi le myrte c'est aussi c'est aussi Israël qui, quelque part, renaît toujours de ses cendres. Et ça, c'est intéressant. Qui, quelque part, même si Israël tombe, Israël qui se relève toujours. On a le cédra qui représente l'arbre de l'Éden. Et enfin, très intéressant, le palmier, cet arbre du désert. Et là, j'ai vu un commentateur dire la chose suivante au sujet du palmier. C'est que le palmier, oui, donc il est... On est appelé à être comme les palmiers. Pourquoi ? On est appelé à être les pieds dans l'eau, c'est-à-dire dans la Torah, mais la tête dans le feu. Et ça, c'est l'esprit. Et j'aime bien cette image. On est appelé à marcher dans la Torah, à être enraciné dans la Torah, mais ensuite avoir la tête dans le feu. Et c'est ce que nous dit Ésaïe aussi, lorsqu'il dit « Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles ne s'éloigneront pas de toi ». C'est les deux à la fois. On en vient à la fin de la fête des tabernacles, le septième jour, la cérémonie du puisage. Donc il y a un prêtre qui allait une fontaine, qui allait puiser de l'eau avec le peuple qui était dans la joie. Et il cite Ésaïe 12 qui dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Et ça nous parle aussi, la fête des tabernacles nous parle tout simplement de renouer le contact avec Dieu qu'on peut perdre tellement facilement dans le quotidien avec toute cette turbulence, toute cette agitation du monde qu'on peut se laisser ravir si facilement. Et donc, et quelque part, puiser aux sources du salut dès le matin, se laisser irriguer par le Seigneur dès le matin, ça c'est aussi extrêmement important. Mais c'est l'image, la rosée du matin, c'est Dieu qui dit « Je vais vous donner la rosée, je suis la rosée du matin » et on a besoin de cette rosée. Et je crois que les démarrages, je vais insister là-dessus, de nos journées, je crois que c'est le plus important. Et je crois que les démarrages, les matins, ils peuvent avoir une influence énorme sur la journée. Regardez ce que dit Xavier Dufour d'RNC, une citation que je trouve à la fois simple, mais extraordinaire. « La qualité de ma journée n'est pas liée aux circonstances. La qualité de ma journée n'est pas liée aux circonstances que je vais rencontrer, mais à l'attitude avec laquelle j'ai décidé de la commencer. » Excellent, excellent. Donc, on a parlé d'accueil avant, mais comment est-ce que tu accueilles le Seigneur le matin? Comment est-ce que tu t'accueilles toi-même? Et ça, c'est extrêmement important. Je sais que par exemple, Julie, moi je la retrouve le matin, quand je descends, elle se lève un peu plus tôt que moi, sur le canapé, c'est la louange quoi. Tac, c'est tout de suite, et je crois que elle a choisi la bonne part, comme nous dit la parole. Et justement, ça me fait penser aussi à Marthe et Marie. Et c'est le Seigneur qui dit à Marthe, vous connaissez hein, cette histoire, donc Jésus vient avec ses disciples, et donc Marthe, elle tout de suite dit, mais il faut les servir, et Marie, elle va au pied du Seigneur, elle l'écoute. Et donc, c'est quand même intéressant ce que Marthe, elle dit, elle s'adresse au Seigneur, elle dit, cela ne te fait-il donc rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et lui répond, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Là, on est dans la vanité. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Moi, à mon avis, Jésus ne veut pas dire par là, en gros, il faut rien faire, il faut simplement écouter ma parole et après, tu fais rien. Non. Moi, je pense que c'est juste une affaire de priorité. Ça me fait penser aussi au fils aîné. Et au fils prodigue, tous les deux, ils étaient en dehors de la maison du Père. Moi, je crois que le désir du Père, c'est qu'on serve, comme le fils aîné a fait, qu'on le serve, mais qu'on le serve en restant dans la maison du Père, en prenant nos repas avec le Père, qu'on le serve en restant dans la maison du Père. Et je pense que Marthe, elle a fait les choses à l'envers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous ressentez ça dans sa question. Ça te fait rien, Seigneur, que là, Marie, elle fait rien pendant que moi je bosse? Elle est en train, je trouve, d'adresser un reproche au Seigneur. Ça te fait donc rien? Tu trouves que c'est juste? Et ensuite, elle dit, va donc lui dire. Donc en gros, ben voilà, va lui dire de se bouger un peu. Donc double amertume. Amertume contre sa sœur et contre le Seigneur. Et moi, ce que je crois, c'est la bonne part, à mon avis, c'est, par rapport aussi à ce que j'ai dit avant, c'est Marie, elle se laisse remplir par le Seigneur d'abord, et ensuite, avec ce cœur rempli, elle sera dans la joie, et là, elle ira servir, mais avec un bon cœur. Et cette amertume, il n'y en aura plus du tout. Au contraire, il y aura de la reconnaissance. De la reconnaissance et de l'amour pour les autres. Et je crois que ça, c'est vraiment une clé. C'est comme un moteur sans huile. Vous l'avez peut-être... un moteur sans huile, ça grince, ça dépérit, ça s'use. Et dans notre regard aussi sur Dieu, si on n'a pas cette huile, cette rosée du matin, notre regard sur Dieu peut se dégrader, notre regard sur nous-mêmes peut se dégrader, et notre regard sur les autres peut se dégrader. Et c'est l'amertume qui vient. Je vous ai parlé de Tony Sperandeo, il m'avait envoyé un psaume, le psaume 46, et regardez ce qui est dit, là, parce que là on parle d'eau aussi, dans la fête des tabernacles, la pluie, c'est aussi important, on prie aussi pour que la pluie arrive, et en même temps la pluie représente bien sûr la Torah. Et là il est dit, dans le psaume 46, un petit extrait, « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Donc là, on sait que la mer, ça représente les nations aussi. C'est dit dans Ésaïe 17. Et ensuite, donc on a d'un côté ce mouvement-là de la mer qui représente les nations. Et dans le psaume 46, il est dit ensuite, « Mais il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. » Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Donc moi j'ai envie de dire, le matin on a le choix. Toute la journée d'ailleurs, mais ça commence le matin. Est-ce que tu vas te laisser irriguer en écoutant, je sais pas, France Inter ou regardant BFM TV par l'agitation de la mer, ou bien tu te laisses irriguer par ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Et donc dans... Ce qui est quand même intéressant, c'est que Jésus, il a participé à la fête des tabernacles, et on pense que c'est dans le cadre de cet événement-là, où ils sont allés puiser de l'eau, qu'il a dit, et d'ailleurs, il a même crié, il s'est écrié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et qu'il boive. Ça peut nous parler aussi, voilà, de cette nourriture dont on a besoin, notamment le matin. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, pas un seul fleuve, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Donc, le Saint-Esprit. Et dans Joël 3, c'est clair, il est question d'une pluie spirituelle. Il nous est dit, réjouissez-vous en l'Éternel, c'est d'ailleurs un des objectifs de la fête des tabernacles, car il vous donnera la pluie en son temps, et un peu plus loin, il est dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je crois que c'est même Huguette qui l'a prié pour Israël avant. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Donc, il ne faut pas oublier aussi, pour nous, que la fête des tabernacles, elle a aussi une dimension particulière parce que il nous est dit que dans la Nouvelle Jérusalem, ben c'est Dieu qui va tabernacler, qui va habiter au milieu de son peuple, donc on peut se réjouir, mais que entre temps, c'est Dieu qui vient habiter en nous. Donc quelque part, on est comme une souka, une cabane du Seigneur. Et ça aussi, on n'est pas orphelin, quoi, quelque part. On a le Père qui tabernacle, on a le Fils qui tabernacle, déjà l'Esprit du Père, l'Esprit du Christ, qui habite en nous. Et un des principes aussi de la fête des tabernacles, c'est se réjouir, mais c'est aussi exprimer sa reconnaissance pour la provision de Dieu, sa protection. Dans le désert, ça c'est quelque chose aussi d'important pour le peuple juif, et je crois que ça aussi il ne faut pas l'oublier. Il y a cette parole aussi que j'ai donnée encore à Elisa récemment, où il est dit, d'ailleurs tu l'as dit au début, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Moi je lui ai donné aussi la suite, tu l'as peut-être dit, je ne sais plus, car il prend soin de vous. Et ça c'est aussi un des axes de la fête des tabernacles, car il prend soin de vous. Et là je voudrais juste vous donner un petit témoignage personnel, parce que l'Esprit distribue ses dons comme il le veut, et maintenant ça fait depuis 15-20 ans que ça dure, donc j'ai vraiment remarqué que Dieu, lui, il me donne des rêves. Il me donne des rêves, et là, depuis le mois de septembre, il y a une fréquence au niveau des rêves, et conformément aussi à cette parole de Joël, donc vos jeunes gens, vos vieillards, c'est peut-être les vieillards, c'est vrai que je commence à avoir des cheveux gris, je crois que c'est les vieillards qui ont des sons, oui, ah ben voilà, bon ben je fais partie des vieillards alors, non c'est pas aussi catégorisé, heureusement. Et donc Dieu m'a parlé par les rêves, et juste pour vous dire que quelque part cette parole de Joël, elle est encore en vigueur, et je pense même que ça va s'accentuer, pour vous montrer aussi à quel point concrètement dans la vie d'aujourd'hui, dans nos vies, Dieu, il prend soin des uns et des autres. C'est que j'ai eu à la fois, pour des personnes, c'était pas pour moi, pour différentes personnes, des rêves, on va dire, de consolation, des rêves d'encouragement, et même des rêves d'avertissement. J'ai commencé juste par le rêve d'avertissement. C'est qu'un jour, j'ai rêvé d'un petit garçon que je connais pas du tout, qui est ici en maternelle, pas du tout. Et dans ce rêve, le Seigneur me dit, tu es appelé à être un père pour lui. J'ai aucun contact avec cet enfant. Et donc, heureusement qu'on a aussi notre sentinelle Anne-Pierre Elien. Donc, parce que moi, quand j'ai des rêves, surtout là, par rapport à des enfants, à des collègues, je vais aussi la voir. Et dis, voilà, ça, c'est un sujet de prière. Moi, je prends les rêves au sérieux. Il faut bien sûr discerner les rêves. La Bible nous dit examiner toutes choses. Il faut examiner, hein, et retenir ce qui est bon. Il faut discerner. En tout cas, moi, je les prends au sérieux. Donc, et je lui transmets pour qu'elle puisse aussi prier ou faire le lien avec l'équipe d'intercession. En tout cas, voilà. C'était soit un père pour cet enfant. Et je savais que la seule chose que je savais au sujet de cet enfant, c'est que c'était une situation familiale compliquée, d'accord, avec des parents séparés, c'est tout ce que je savais. Bon. Mais j'ai appris après coup que cet enfant, il était venu à l'école en vélo, qu'il avait, donc il y avait une pente comme ça, utilisée aussi par des véhicules, et il n'a pas réussi à freiner, il est rentré dans un portail d'une maison, et il s'est fracturé, il s'en est sorti avec une fracture là au niveau du poignet. Et moi je pense que ça aurait pu être bien pire. Ensuite, j'ai vu sa mamie qui me dit, récemment elle me dit, oh là là, oui, ben là il s'est fait opérer, parce que sa capacité auditive elle est de 40%. Il fait des apnées du sommeil. Donc je me suis rendu compte, waouh, cet enfant, il a un tas de défis que j'ignorais complètement, mais que le Seigneur, il avait pointé du doigt. Cet enfant que je ne connais pas, que de vue, prie pour lui. Ça, pour moi, c'est ça, Dieu qui prend soin. Dieu qui prend soin. Un autre rêve aussi, c'est une personne qui est en transition professionnelle. Et là aussi, je ne veux pas aller dans les détails, aussi pour respecter la vie privée des personnes, mais ce qui était fort dans ce rêve, c'était carrément... Les mots que j'ai entendus, c'est des mots qui ont été carrément dits, c'était des paroles de connaissance dans le rêve. Et c'était une personne, elle était trop, qui était en pleurs parce qu'elle était trop étroite dans son pantalon. Et là, c'est sa sœur qui lui dit, bravo ma chérie, bravo ma chérie. Et quand je lui ai partagé ça, elle m'a dit, mais oui, il y a quelques semaines en arrière, mon papa, il m'a dit, bravo ma chérie. Parce qu'elle elle lui avait fait quelque chose. Mais après, il lui avait dit, mais ne démissionne pas. Moi, dans mon rêve, il n'y avait pas cette deuxième partie. Il y avait juste la première partie. Bravo, ma chérie. Je lui dis, tiens, dans mon rêve, j'ai entendu, bravo, ma chérie. Et c'est exactement ce qu'elle avait entendu. Et moi, c'est comme ça que j'interprète. Je pense que c'était vraiment comme le tampon du Seigneur, c'est, vas-y, tu es encouragé à continuer. Tu es encouragé. Merci pour tout ce que tu as fait dans ton ancien lieu de travail. Mais maintenant, fonce et ne sois pas dans la culpabilité, dans la honte, et ainsi de suite. Le pantalon, maintenant, il est trop étroit. Il est temps de changer d'autres pantalons. Et avant-dernier exemple aussi, une collègue qui, dont quelque part la vie a été brisée parce qu'elle avait un rêve pour sa famille, tout a volé en éclats. Et donc elle devait revenir, mais c'était vraiment très dur, et moi j'avais pas tous les détails. Et dans ce rêve, je vois qu'elle réintègre l'équipe, et que je me dirige vers elle, et j'ai une compassion, et je la prends dans mes bras. Et quand elle est revenue, je lui avais partagé ça aussi, et ben je l'ai fait de manière corporelle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, elle a donné comme verset à apprendre aux élèves, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui, car il prend soin de vous. Et un dernier exemple encore, là de nouveau avec une collègue que je côtoie pas trop, je fais un rêve, je suis ici dans la salle à manger, et je rêve que je prie pour elle, et j'ai trois sujets de prière. Trois sujets de prière, trois choses que je vais lui dire. Moi je dis ok, je vais la voir, je lui raconte ce rêve, je lui donne les trois axes de prière, et elle me dit c'est exactement ça. Et donc du coup j'ai j'ai fait cette prière que j'ai fait dans le rêve pour cette personne. Tout ça juste pour vous montrer, c'est pas quelque part pour montrer, ah regardez, voilà, me glorifier, parce qu'on a encore parlé d'orgueil avant, mais c'est juste pour vous dire que Dieu prend soin de nous et il passe par ses enfants. Après, vous pourriez vous dire aussi, mais bon, il a des rêves pour une collègue, pour un enfant qu'il connaît pas, mais et sa fille là qui est en difficulté, il a pas de rêve pour elle. Je vais juste vous dire deux choses. La première, quand Elisa était bébé, on était au Summer à Colmar. Il y avait Pierre-Daniel Martin qui était là, on avait le couffin. Et il s'est approché d'elle, il lui a dit des paroles magnifiques, des paroles même déjà sur sa destinée. Et à un moment donné, et notamment par rapport à Israël aussi, et il nous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Tu te souviens, Julie, ne vous inquiétez pas pour la santé de votre fille. Elle était bébé. En juin, on est allé participer à un séminaire au Rimnisov. C'est nouveau avec une équipe de Pierre-Daniel Martin. Et là, ils ont prié pour les familles. Et là, ils avaient une équipe d'intercession et une dame qui s'approche de Julie. En juin, tout allait bien pour Elisa. Hein. Tout allait bien. Elisa était là. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu peux le dire? Ne t'inquiète pas pour la santé de ta fille. Vous voyez? Waouh. Elle était en pleine forme. Donc, moi je dis waouh. Ça, c'est Dieu qui prend soin. Qui prend soin. En passant par son corps aussi, en passant par ses enfants, qui prend soin de nous. Et j'ai presque terminé, je vous rassure. Mais, donc, ces fleuves d'eau, quel est le fleuve d'eau que tu veux avoir? Est-ce que c'est la mer agitée des nations ou ce fleuve d'eau qui réjouit la cité de Dieu? Et à propos de, donc, ces fleuves d'eau d'ailleurs, c'est quand même intéressant que Jésus dit des fleuves d'eau couleront. C'est-à-dire qu'il y en a même plusieurs. C'est tout azimut. C'est tout azimut. Et quand ça coule, ça touche des gens. Et là, je voudrais juste vous donner un exemple ça m'a vraiment touché d'une dame dont les fleuves d'eau vive ont vraiment touché, ont vraiment touché des personnes autour d'elle. Et je voudrais juste vous lire, avant de demander à David de projeter l'image numéro 1, lire juste Ésaïe 58, il est dit, l'Éternel sera toujours ton guide, il rassasira ton âme dans les lieux arides, parfois de ton cœur, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé. Ça c'est la rosée du matin dont on a besoin, sa parole, sa présence. Et tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas, les fleuves d'eau vive. Et juste avant il est dit, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Donc tu peux me montrer s'il te plaît, nous projeter l'image numéro 1. Donc il y a eu les Jeux Olympiques, ça vous a pas échappé, il y a eu les Jeux Paralympique, et je voudrais vraiment te remercier Marguerite de m'avoir transmis ce témoignage qui est vraiment bouleversant. Et donc là vous voyez un athlète avec la médaille d'argent en bouche. Pourquoi en bouche? Parce qu'il n'a pas de bras. Et donc c'est une belle image, donc c'est le succès d'une vie, mais c'est dû à une personne dont les fleuves d'eau ont coulé. C'est, on va dire, voilà. En tout cas, Dieu a utilisé cette personne, et cette personne, certains la connaissent ou se souviennent d'elle. Il s'agit d'Ariane, de l'association Pélican, qui est en Afghanistan, et un jour, et donc qui a une école et qui s'occupe d'enfants handicapés, hein, et notamment, c'est ça, notamment. Et donc un jour, il y a des personnes qui toquent, et tu pourras me corriger hein, si je me trompe, mais des personnes qui toquent à la porte de cet établissement avec un petit enfant qui n'avait pas de bras. Et ce n'étaient pas les parents. Ce n'étaient même pas les parents. Les parents avaient honte de leur enfant parce qu'en Afghanistan, c'est souvent perçu comme une malédiction, le handicap. Donc déjà ça, vous voyez, pour l'identité de l'enfant. Donc des voisins qui l'amènent, voilà, est-ce que vous pouvez faire quelque chose de lui? Et donc Ariane l'a recueillie, et là, donc, un enfant sans bras, et là, cet enfant a reçu de l'amour, non seulement de la part d'Ariane, son équipe, mais de la part aussi des enfants. Tu peux montrer l'image numéro 2? Donc, les enfants, voilà, donc là, on le voit, enfant à droite, les enfants qui sont occupés de lui, qui lui brossaient les dents, qui étaient aux petits soins pour lui, c'est ça pour moi, les fleuves d'eau vive aussi qui coulent concrètement, c'est là, des fleuves de bénédiction sur les gens. Et donc, quelque part, ça l'a reconstruit, et à un moment donné, il s'est mis à la natation, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Médaille d'argent. pour moi, waouh, ça, c'est la grâce de Dieu, ce sont les miracles de Dieu. Et merci encore de et vraiment Seigneur, moi je te remets aussi Ariane et cette association et tout ce qu'elle fait. Merci pour l'esprit de Christ qui est en elle, pour tout ce qui est déversé, pour tous ces fleuves de bénédiction sur ses enfants. Merci Seigneur de la garder, de la bénir et que cette lumière encore, ces fleuves d'eau vive puissent se propager dans les à travers toutes les ténèbres de ce pays au nom de Jésus. Amen. 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 Et pour conclure, le huitième jour de la fête des tabernacles, c'est un temps particulier, c'est ce qu'on appelle la joie de la Torah. Là, il y a un cycle de lecture de la Torah qui est terminé, et là, on voit des gens qui Torah dans la main dansent dans les rues, et ça. Et ça, n'oublions pas aussi, une des caractéristiques de la fête des tabernacles, c'est se réjouir. Et il n'est pas dit « réjouis-toi », il est dit « réjouissez-vous ». Vous, vous réjouirez. Et vous rendez compte dans quel contexte ils sont actuellement Israël ? Ils sont appelés à se réjouir. Mais il est dit « vous vous réjouirez en présence de l'Éternel ». C'est quand tu sais qu'il y a la présence de Dieu qui est avec toi. Malgré les turbulences, tu sais que Dieu est avec toi, tu peux te réjouir. Tu peux te réjouir aussi. Et donc je voudrais juste vous proposer, c'est de faire la chose suivante. Il est question d'huile, il est question aussi de rosée du matin. Il y a beaucoup de textes qui parlent aussi de la rosée du matin. On a besoin de cette nourriture. Mais il y a un autre type aussi de rosée qui est une bénédiction pour nous. Et ça sera le dernier passage que je vais lire. Et c'est le fameux psaume 133. Où il est dit... Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, ce qu'on fait maintenant. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et là, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité.